France Inter, Laetitia Gaillet. Le 6-9 de l'été.
Bonjour Zosigbourg.
Bonjour Laetitia, bonjour à tous.
Alors ce matin, on s'enivre, on s'entête.
On prend le large, on respire, on renifle, on sent, on flaire, on hume, on s'emplit de parfums, de senteurs et de souvenirs. Le magazine du Monde nous propose un voyage au pays des odeurs, celle des vacances, celle de l'été, soleil, beignet, chouchou, celle dans les cheveux des odeurs caractéristiques, singulières, saillantes. La marée basse, l'ambre solaire, l'odeur du linge qui sèche à la fenêtre ou bien celle de la terre après la pluie. Et l'on y découvre que tout ça n'est en fait, et évidemment, vous allez me dire, que des réactions chimiques que notre cerveau associe à ces effluves, des phénomènes au nom bien compliqué, exhalaison soufrée pour la marée basse. C'est en réalité le phytoplancton, le premier maillon de la chaîne alimentaire marine qui, en mourant, se décompose et libère une substance qui donne cette senteur si spéciale. La photooxydation, ça c'est pour les draps propres en train de sécher. Pétrichor pour cet arôme frais et sucré de la pluie, le son des pierres en grec, un suc végétal qui permet aux plantes de se protéger. Et la fameuse ambre solaire, la plage en une seule odeur, doit sa tiédeur d'intimité des bras, de bras caressants, comme l'appelle Philippe Claudel dans son livre Parfum, à une molécule. La salicylate de benzyle, matière première qu'on retrouve dans l'ylang-ylang ou bien la fleur de tiare, bouquet parfumé d'éternité qui convoque notre mémoire, notre insouciance, notre enfance aussi, l'enfance, à ses odeurs, disait Jean Cocteau dans Portrait souvenir, c'était en 1935.
Et sentez encore d'autres odeurs, titine aux narines.
Oui, c'est le thym, vous sentez le romarin, la sauge, la sarriette, quelques amandiers, aussi des cyprès. Et puis écoutez... Alors là, on y est, clairement. Expérience immersive sur les collines de la Treille, près de Marseille. Celle de Marcel Pagnol, de sa jeunesse, entre Odyssée cinéphile et excursion olfactive. Les éco-weekends nous emmènent sur les chemins caillouteux, sinueux, arides, dans la ferme abandonnée d'Angèle, à la Bastide Blanche et sa placette plus petite qu'une cour d'école, comme l'écrivait Pagnol, ombragée par un très vieux mûrier. Au milieu de la place, la fontaine, la fameuse, elle parlait toute seule, écrit-il. C'était une conque de pierre vive, accrochée comme une baudèche autour d'une stèle carrée d'où sortait le tuyau de cuivre. On imagine bien le petit Marcel gambadé en culotte courte dans cette garrigue étouffante sous un soleil de plomb et dans la moiteur de sa vie mêlée la réalité, la fiction, raviver les souvenirs du monde d'avant avec ses livres. Pagnol rend l'enfance universelle et c'est ça qui est beau.
Une autre Madeleine de Proust nous est contée par Néon ce matin.
Et oui, il s'agit de la gnôle, celle à la poire, à la mirabelle, à la noix, à la prune, l'alcool du pépé national. Produit brut, on le connaît, artisanal du terroir qui traverse les âges. Le verre réconfortant qu'on boit le dimanche dans le jardin, sur la table avec la toile cirée, mélangée avec le café pour pépé, avec un sucre pour mémé, Julien Lepers. En fond sonore, une vie de dur labeur, récompensée à l'apéro. La satisfaction de consommer sa création, ici c'est du vin d'épines que buvait le grand-père du journaliste de Néon, Mathias Chaillot, n'a pas la recette, mais veut reproduire à l'identique le breuvage de son adolescence. Il découvre des plantes qu'il ne connaissait pas, le prunelier pour le vin d'épines noires, l'aubépine pour celui d'épines blanches. Il court après son enfance dans les champs de ses souvenirs, et ça aussi c'est beau. Il bichonne sa mixture, recommence plusieurs fois, avant que la magie opère. Le vin a la même odeur, la même couleur que dans sa mémoire. Il est heureux, il a 15 ans à nouveau.
Des réminiscences aussi dans l'Obs ce matin.
Tendresse absolue du vélo avec lequel les Français renouent depuis plusieurs mois. Doux sentiment du vent dans les cheveux, savoureux bruit du dérailleur, du froufrou incessant des herbes sèches au milieu des chemins. Ivresse de la vitesse, l'hebdo consacre un grand dossier à la petite reine devenue impératrice de nos vies déconfinées. La vélorution citoyenne est en marche, écrit le magazine. Jusqu'à 17 000 cyclistes par jour à Paris, 50 km de pistes supplémentaires. Le poète et écrivain Bernard Chambasse, touchant comme un gosse à vélo, je vérifie chaque jour que je suis bien vivant, dit-il. On y apprend aussi, plus étonnant, que pédaler est à la mode dans le milieu des affaires. Plusieurs gros groupes organisent des sorties, histoire de réseauter écolo et de faire tomber les barrières. Fini le green du golf en costume, bonjour, la sueur, le sang, les larmes, l'effort, quoi. Sauf que pour être invité à cette virée, eh bien, il faut être coopté comme au Rotary. Autre temps, même mœurs.
Ouais, c'est bien connu, chasser le naturel, il revient au galop.
Et plusieurs mois qu'on n'en avait plus entendu parler. La bise au père, eh oui, un savant retour en grâce et les autorités sanitaires du Grand Est s'en émeuvent dans Libération Champagne. Arrêtez de vous embrasser, enfin, l'acte n'est pas anodin et c'est comme ça que le virus est transmis. Ne jouez pas à la roulette russe. Dans la région, les cas ont doublé la semaine dernière. Et on l'a vu, le Covid progresse un peu partout en France. On n'a pas encore gagné la guerre, s'alarme Olivier Véran dans Le Parisien. Il dit aux jeunes d'arrêter de se relâcher. Ce n'est pas parce que c'est des vacances qu'il faut baisser sa vigilance. Le ministre de la Santé, très pédago. Mais en vérité, on sent bien que le spectre du reconfinement n'est pas si loin.
Autre journal, autre ministre.
Jean Castex, le Premier ministre, s'exprime dans Nice Matin avec un masque, mais sans tabou, nous dit Le Quotidien. Incarnation du maire de Matignon, il est venu parler sécurité après plusieurs règlements de compte dans la capitale azuréenne. Jean Castex, même pas 3 semaines au gouvernement, est déjà sur une poudrière. Tiens, tout autre chose. Maintenant, Le Figaro s'interroge sur la meilleure façon de tuer les bovins avant qu'on ne les retrouve dans nos assiettes. Le modèle de l'abattoir traditionnel serait-il dépassé ? Guylain Pageot, éleveur à Villeneuve-en-Ré, au sud de la Loire-Atlantique, en est convaincu. Il aime ses bêtes, c'est clair, ça se voit. Alors, il veut pouvoir les abattre sur leur lieu de vie, sans stress, sans panique. La panique qui fait sécréter à l'animal des toxines. Et après un premier test concluant, il lui faut maintenant des sous pour concrétiser le projet des caissons d'abattoir mobiles avec une capacité de 20 carcasses par jour contre 250 à 500 dans un abattoir industriel. Mais qu'importe, le bien-être de ces vaches passe avant tout, c'est noble et ça force le respect.
Des animaux aussi dans le pèlerin.
Et oui, des coqs, des canards, des cochons, des grenouilles qui habillent la campagne de leur bruit, ritournelle joyeuse et infinie, la vie. En somme, alors à l'heure où cette biodiversité est attaquée par des néo-ruraux à l'ouïe visiblement très sensible, l'hebdo s'interroge, faut-il sauver les bruits de la campagne, les inscrire dans le code de l'environnement, préserver ce patrimoine universel qui fait la mémoire de nos papis, de nos mamies, de nos pères, de nos mères, parce que finalement, et c'est Georges Dumouriez qui le disait, les odeurs, comme les sons musicaux, sont de rares sublimateurs de l'essence de la mémoire.
Et on y revient. Merci Soizic Bourg.